épisode 65 du podcast Aliment Passion. Aujourd'hui, je vous parle tout d'abord pourquoi j'ai été absent pendant plusieurs semaines, ainsi que vous faire la critique de 3 restaurants différents, un dans les Laurentides et 2 sur la rive sud de Montréal. Je suis de retour et c'est parti! Salut les foodies, ici Roger, votre crazy chef. Bienvenue au podcast Aliment Passion. Allez liker toutes nos pages sur les médias sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et Twitter. Vous allez voir toutes les dernières nouvelles du podcast, ainsi que les photos de ce que je vais vous parler aujourd'hui. Bon, ça fait presque un mois et demi que j'ai pas mis en onde ou du moins en ligne, un épisode du podcast. Je vais être bien honnête avec vous, ça a été un moment difficile à passer là, dans la famille. J'ai toujours été honnête avec vous, là, fait que je vais l'être pour la raison de mon absence là, du podcast. Mon petit frère est décédé subitement d'un malaise cardiaque à l'âge de 39 ans. Ça a été complètement soudain là, et inattendu. Donc, évidemment, ça a été un choc. Les procédures ont été extrêmement complexes. Au moment où que je fais le podcast, là, c'est toujours pas réglé. On en a peut-être encore le même là, pour un mois pour régler là, les choses. Donc, ça m'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Évidemment, là, ma tête était pas ailleurs. J'avais beaucoup de la misère là, à fonctionner juste pour mes petites affaires de tous les jours. Là. Donc, quand venait le temps là, où est-ce que j'aurais pu enregistrer un podcast, comme je dis, évidemment, la tête et le cœur n'étaient pas, puis j'avais pas l'énergie. Donc, je suis bien content de revenir. Puis de recommencer à vous parler, j'ai plein de belles choses à vous jaser. Mon frère était un amateur de vin du Québec, donc éventuellement, là, c'est sûr que je vais avoir là, un épisode ou un segment là, où je vais rendre un petit hommage à ma façon, là, de façon alimentation, en parlant de vin qu'il aimait beaucoup. Donc, c'était la raison là, pourquoi j'ai été absent toutes ces semaines. Ça m'a pris beaucoup d'énergie, mais je suis vraiment content de recommencer. Donc, aujourd'hui, ça va être un épisode tout en restaurant. Tout d'abord, là, le premier restaurant dont je vais vous parler est une microbrasserie dans les Laurentides, dont je vous ai déjà parlé. Là, je les avais visités là, dans une tournée bière là, qui avait été mon premier épisode, l'épisode 001 d'Aliment Passion, là, qui était la Beer Run du Nord. C'est la microbrasserie L'Entêté à Mirabel. Cette fois-ci, là, on est arrêté avec des amis pour manger un souper. Donc, la microbrasserie L'Entêté à Mirabel. J'ai bu de leur bière, évidemment, dans cette microbrasserie qui a aussi un restaurant sur place, là, une très belle place. Ce que je vais faire, je ne parlerai pas de leur bière. J'ai déjà beaucoup de choses à vous parler dans cet épisode-là. Je vais juste vous parler de leur bouffe là, pour cette fois-ci et je vais vous parler des bières que j'ai goûtées là, lors de ma visite à la microbrasserie L'Entêté de Mirabel. Dans un autre épisode là, que je vais consacrer aux bières, je vais déjà avoir bien du stock à vous jaser dans cet épisode-ci. Donc, une belle place où on s'est rassemblés là, pour souper. On était là, 5 chums qui se sont rejoints là-bas. Il y avait un gala de lutte organisé par M. Marc Blondin, M. Fun, soyez-y, mesdames, messieurs. Et on s'est rassemblés. Là. D'ailleurs, si vous faites une sortie familiale, les galas de lutte locales là, sont de très grande qualité et c'est quand même assez abordable. Là. Les sorties familiales sont tellement chères là, que si vous voulez avoir un petit entertainment, le fun en famille, tout le monde va y trouver son compte là, et ça fait des belles soirées pour quand même là, un prix très raisonnable. Là. Je pense que nos billets étaient 30$ par personne. Donc, même pour une sortie familiale, il y a moyen de très bien là, s'amuser pendant plusieurs heures. Donc, pour le souper à L'Entêté, j'y étais là avec la première entrée que j'ai pris là, c'était un pogo de sanglier. Donc, deux pogos là, faits maison avec un genre de mélange de chair de sanglier, style saucisse là, et pané. Vraiment, tout était fait maison de très belle qualité. Donc là, deux pogos de sanglier. C'était servi là, avec une mayo, miel et Dijon maison. Une très belle exécution. La viande de sanglier est quand même là, une viande sauvage qu'on réussissait à goûter. Je me doute bien là, qu'ils ont probablement essayé de faire un mélange probablement à porc ou quelque chose là, qui va ressembler à de la saucisse pour faire le pogo. Mais le goût délicat de la viande sauvage était encore présent. Ce qui est quand même très le fun, là. C'est quand même quelque chose qui a été pané, frit et qui était servi avec une sauce. Donc, on aurait été très plus facilement perdre la délicatesse de la viande de sanglier. Mais c'était là, donc vraiment, là, très belle exécution. Quelque chose de très juteux, pas du tout sec. Ça aurait été bien dommage là, de faire quelque chose qui était une version là, retravaillée là, d'une saucisse et que ça aurait été trop sec. Mais vraiment, là, super belle exécution. C'était pas du tout un problème. Très belle texture, c'était juteux, c'était goûteux. La panure maison, très bien faite. Un panko avec un gros croquant dedans. Donc, on avait un excellent contraste. Un gros croquant, le moelleux juteux là, de l'équivalent de chair de saucisse de sanglier à l'intérieur avec des belles saveurs. La miel et Dijon qui était bien balancée, ça allait très bien l'accompagner. Pas trop forte, pas trop sucrée. Une mayonnaise pas trop lourde non plus. C'était pas trop gras étant donné que c'était quand même quelque chose qui était frit. Là. J'avais pas besoin d'avoir un over gras. Donc vraiment, super belle qualité. Beaucoup aimé. Une très belle entrée. Une entrée là, qui est en vente là, à la carte au prix de 9,25$. Donc, un super belle entrée. On y va avec un 4 sur 5 pour le pogo de sanglier. La deuxième entrée que j'ai goûtée, c'est les bonbons de bacon fumé, là, donc caramélisés avec sauce à la bière et sirop d'érable. Donc, on parle beaucoup là, de bonbons de saumon, bonbons de bacon dernièrement. C'est tout simplement là, des petits morceaux, des petits cubes qui ont été là, fumés habituellement et cuits lentement, caramélisés. Donc, vous allez avoir là, cette espèce de côté laqué caramélisé avec un côté salin, évidemment. Ainsi là, que le côté sucré, braisé, qui va être très intéressant. Une très belle exécution, très, très moelleux, une très bonne sauce, une belle tendreté. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait un côté un peu légèrement, un peu stringy. Là, donc, j'avais l'impression qu'il manquait peut-être une petite affaire de cuisson. Évidemment, là, on fait ça, c'est un flan de porc qui est la pièce avec laquelle on fait là, le bacon en temps normal, puis nous le servons en cube. Mais j'avais l'impression qu'il y avait un petit côté encore un peu stringy dedans, là, qu'il y avait peut-être il avait peut-être été retiré là, quand on dit quelque chose à cuisson lente. Là, ceux qui fument de la viande à la maison vont savoir là, pour les cuissons lentes. Souvent, là, on veut les laisser là, peut-être jusqu'à peut-être 200, 210, dépendamment du morceau. J'ai l'impression que ce morceau-là a été enlevé peut-être un 5 à 10 degrés trop tôt. J'ai l'impression qu'il manquait une petite affaire de cuisson. Il y avait une petite affaire trop de gras. J'avais l'impression que le gras aurait dû fondre un peu plus puis que la viande aurait dû être une petite affaire plus tendre. Je trouvais qu'il y avait un petit peu trop de résistance. Tu sais, une viande filamandreuse, là, quand c'est pas cuit comme il faut, t'as l'impression que ça te pogne un peu dans les dents. Ça donnait un peu cet effet-là. Pas beaucoup, mais en temps normal, c'est supposé être ultra moelleux, ça se défait là, sous le poids de ta langue. C'est pas un problème. Là, j'ai l'impression qu'il y avait une petite résistance qui donnait un petit côté que ça accrochait. C'était pas mauvais, c'était bien, mais je trouvais qu'il manquait peut-être justement là, un petit peu de cuisson. La saveur était vraiment bonne, mais il manquait peut-être une légère exécution. Comme je dis, là, d'après moi, là, il manquait une petite affaire de cuisson. Un petit peu trop gras, la viande qui est un petit peu trop stringy, donc encore un petit peu trop dur pour vraiment avoir ce côté complètement caramélisé. Mais sinon, les sauces sur la viande, la laque... Très belle saveur, très belle, vraiment saveur exécution à ce niveau-là, ça va. C'est vraiment l'exécution totale de la cuisson de la viande que je pense qui était une toute petite affaire défaillante. Mais c'est vraiment, là, c'est du cherry picking là, parce que sinon, ça restait quelque chose de quand même très bon, bien exécuté, une belle portion aussi. Là. Donc, là, pour l'assiette là, de bonbons de bacon fumé à 14$, on y va avec un 3,75 sur 5. Quand même quelque chose là, de très bien, mais... Juste là, au niveau là, de la petite affaire de cuisson qui manque aurait probablement amené ça là, à un autre niveau complètement là, parce que c'était vraiment très, très bon là, au niveau des saveurs. Pour le plat principal, on y était là, dans la grosse décadence. J'y étais avec une poutine au confit de canard. Oui, on y va là, la totale. On n'était pas là pour... être trop là, santé. Donc, vraiment, une très belle portion. Une poutine là, au canard confit à 20,50$. C'est fait là, avec des frites de pomme de terre rouge maison, un fromage en grains du Québec de très belle qualité et la sauce classique. Là. de l'entêter. Vraiment, là, superbe exécution de A à Z pour tous les éléments. Une très belle frite maison, là, vraiment un style campagnard, là, justement, avec de la patate rouge. Moi, la cantine là, où j'ai grandi, là, c'est de la patate rouge qu'ils utilisaient pour faire leurs frites. Fait que j'ai eu un petit coup de cœur, là, j'ai eu un petit côté nostalgique en mangeant leurs frites. Très, très bon. Un très beau fromage frais, un beau squick-squick, des fois le dimanche soir, quand on y était sur un dimanche. Ça aurait pu être du stock qui avait été livré là, vers la fin de la semaine, donc peut-être après une couple de jours, là, le fromage aurait pu être un peu moins frais. Vraiment pas, donc je sais pas quand est-ce que le fromage avait été livré. Là, on avait encore une belle fraîcheur dedans, là, un vrai fromage quick-quick là, pour le fromage en grain. Très belle qualité, beaucoup aimé ça. Une sauce très riche, très copieuse, là, je suis resté vraiment surpris. C'était crémeux, c'est vraiment le côté, là. Oui, c'était une sauce brune là, de poutine normale, mais il y avait eu beaucoup de travail dedans. Là. C'était pas juste là, une sauce brune en bas normale. Il y avait énormément d'onctuosité dans cette sauce-là et ça venait tout envelopper et ça rendrait ça complètement cochon. Rajoutez à ça là, une très généreuse portion de confit canard. Je suis resté extrêmement surpris. Habituellement, là, une poutine, là, quand on prend une viande, quand même, là, c'est pas juste de la chipette de bacon, là, c'est du confit canard, là, donc c'est quand même une viande. Disons de luxe. Là. Je ne m'attendais pas à une portion aussi grosse que ça. Vous allez voir sur la photo. Là, c'était quand même. Le dessus de la poutine était couvert là, d'une épaisseur assez généreuse de confit canard maison. Un très beau confit canard, une belle portion. Très goûteuse. On goûtait beaucoup la viande du canard. Pas trop salée. Ça aurait pu être facile d'avoir là, comme du restant de canard confit défait, d'avoir justement. Des restants de viande qui est trop salé, puis ils se sont dit on va mettre ça sur la poutine. Pas du tout, on goûtait énormément la viande du canard, une très belle délicatesse, c'est quand même une poutine. Là. Donc d'aller chercher cette saveur-là était parfaite. Le tout était pas trop salé, ça aurait été facile, là, les frites, la sauce, le fromage, le confit de canard, là, d'avoir un tout qui était trop salé. Pas du tout, tout a été super bien dosé, une très belle portion au niveau de la grosseur de la portion. Je trouvais ça, le coût total c'était généreux, là. J'ai fini ma poutine. Par peu gourmandise, parce que c'était du stock. Oui, monsieur, oui, madame. Moi qui est grand et costaud avec une bonne fourchette, là, je me suis un petit peu battu pour arriver là, dans le fond pour par simple gourmandise parce que j'aurais pu arrêter avant. Et puis ça aurait été bien en masse. Donc vraiment, là, overall, des très belles frites, un fromage de très belle qualité, très frais, une sauce là, qui vient vraiment se démarquer. J'en ai pas vu beaucoup comme ça. Honnêtement, là, je pense que la seule sauce que j'ai réussi à voir, là, surtout depuis que je fais le podcast, qui accote celle-là, c'était là, la fameuse poutine là, que j'avais pris chez Sir John à La Chute, où ils faisaient là, la sauce à partir de leur bière et des os de gibier là, qu'ils avaient sous la main à ce moment-là. Là, je pense que c'est la sauce probablement la plus proche que j'ai vue à ce niveau-là. Très, très belle. Et encore là, la portion de confit de canard. Non seulement délicieux, mais très généreux. Donc, pour une poutine là, à 20,50$, on avait des produits de très grande qualité, très bien exécutés. J'y vais là, avec un 4,5 sur 5 pour la poutine au canard confit du restaurant de la microbrasserie L'Entêté à Mirabel. Vraiment, là, une très belle expérience. Ça faisait là, une facture qui était tout à fait raisonnable pour ce que j'avais mangé et bu. Donc, une très belle place si vous voulez arrêter. C'est très beau, là, l'été, ils rouvrent des espèces de grandes portes de garage. Vous avez une vue extérieure magnifique. Très belle place, des prix abordables, beaucoup de choix. Vous pouvez regarder le menu en ligne, là, ça va vous donner là, une bonne idée. Ben, si vous êtes dans le coin, c'est fortement recommandé. La microbrasserie, L'Entêté à Mirabel. Et c'est ce qui complète le premier bloc pour aujourd'hui. Pour le deuxième bloc, là, je vais vous parler d'un souper tapas et cocktail là, que j'ai eu au restaurant Madame Bovary à Boucherville. Un super beau concept, belle décoration, très éclectique. Là. Il y avait un mur où c'était un peu là, comme une espèce de vieille bibliothèque, mais au plafond, il y a une espèce de grand chandelier puis une boule disco. Il y a un DJ qui est sur place là, puis qui met de l'ambiance. Je m'attendais à ce que ce soit bruyant, mais non, c'était quand même une grosse place. Il y avait beaucoup de monde. C'était loud, mais pas bruyant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'ambiance était vraiment bien. Là, puis plus que la soirée avance, là, vers 11h, la cuisine ferme, là, puis ça devient là, un peu plus dansant, la musique monte. Mais sinon, là, nous, on était là pour le deuxième service. comme c'était là, justement un type tapas, là, puis qu'on n'était pas pressé, puis on voulait vraiment avoir une belle soirée en amoureux, le premier service, là, il nous réserve la table pour seulement 2 heures. Ça peut paraître rapide, mais pour une soirée tapas, où on prend notre temps, qu'on prend un verre, qu'on mange des trucs, je trouvais là, qu'on était pour être très pressé, là, donc on s'est forcé, là, les vieillards que nous sommes, là, on a même fait une sieste pour être sûr d'être en forme là, pour pouvoir là, aller souper à 8h15 un samedi soir. Ouais, ouais, ceux qui sont un petit peu plus vieux, là, vous comprenez, là, si vous avez des enfants, aller souper à 8h15 un samedi, c'est un autre game complètement. Donc, on se dirigeait vers là, et puis on a fait un exercice, là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été au restaurant, et puis on sait que tous les prix ont monté, mais on s'est dit, on va se donner une chance, et puis on va comparer des pommes avec des pommes. C'est facile de dire que les restaurants sont chers. Là, on savait qu'on s'en allait dans une belle place où on allait bien manger. Et avant de partir dans l'après-midi, on a pris nos téléphones et on a tout simplement calculé si on sortirait à la place dans une rôtisserie Saint-Hubert, là, bien populaire au Québec. Et on dit que, tu sais, bah, c'est une petite place et ça ne coûtera pas cher. On s'est dit, mettons qu'on irait au Saint-Hubert. Là. On avait calculé que si on prenait, mettons, chacun 2 consommations pendant le repas, qu'on prenait une entrée à partager, là, donc l'espèce d'entrée là, où ils ont des bâtonnets de fromage, des ailes de poulet, etc. Un prenait une assiette de côte levée complète, l'autre une assiette cuisse de poulet et côte levée. Chacun un dessert et mettons là, un café alcoolisé pour finir le souper. Avec les taxes, l'équivalent de la facture qui nous a ramené au Saint-Hubert, c'était là, 207,68. Donc gardez ça en tête là, quand je vais vous dire le prix total. Ça, c'est pour un souper très ordinaire. Là. On n'a pas fait de grosses dépenses. On n'a pas pris 4 bouteilles de vin. Donc, pour l'équivalent là, d'un entrée partagée, repas dessert, 2 consommations et café alcoolisé chacun, au Saint-Hubert, ça nous aurait coûté 207$. Donc, gardez ça en tête là, quand je vais vous parler du prix total là, à la fin de la soirée au Madame Bovary. Tout d'abord, là, on a commencé là, avec des cocktails. Ils ont plusieurs cocktails signature très intéressants. Tous là, au prix de 13,92. Donc, le premier cocktail là, que j'ai pris, c'est le Pompano Sour, qui est fait là, avec de la vodka Belvedere, du Galliano, de la liqueur de sureau, du citron, du sirop simple et un blanc d'œuf. Un drink vanillé, légèrement surette, crémeux, évidemment, dû avec le blanc d'œuf. Légèrement fruité, un super cocktail en apéro, pas trop sucré, pas trop lourd en alcool. Quelque chose de très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Là. Ce premier cocktail-là, ça tombait directement dans mes cordes, ça commençait très bien la soirée. Un bel amalgame, quelque chose de pas très compliqué, mais quand même des saveurs recherchées. Donc, pour commencer, le Pompano Sour, un 4.5 sur 5, ça mettait la table. Mon amoureuse, elle y était avec le Mojito Bovary, qui est faite avec du rhum Captain Morgan, du sirop de bleuet et d'orgeat, du soda et de la menthe. Quand j'y ai goûté, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que ça goûtait le sud. Je m'attendais à ce qu'il ait pris un rhum là, de grande qualité, là, vraiment quelque chose d'importé. Pas du tout, l'écoutement, là, c'est vraiment tout simplement là, un rhum Captain Morgan, mais les autres ingrédients sont tellement de belle qualité qui ont été cherchés, cette fraîcheur-là qu'on a dans le sud. Donc, une saveur dans le sud, mais de luxe. Là. On était vraiment dans ce type-là. Un très bel équilibre, un bleuet très léger, l'orgeat qui est un sirop d'amande qui donnait du corps sans donner trop de sucre, la menthe en finale qui venait donner toute une fraîcheur. Donc, un autre type de cocktail. On était beaucoup plus dans le fruit, dans la fraîcheur. Mais encore là, une super belle exécution. Encore une fois, là, ça a été un gros hit. Donc, pour le Mojito Bovary, on y va avec un 4.5 sur 5. Ensuite, je me suis risqué. C'est le genre de drink ça, que je ne prends plus dans les restaurants parce que tout le monde s'est mis à exagérer à un moment donné. Là, puis je trouvais que ça faisait longtemps qu'on avait dépassé la ligne. Mais là, je me suis essayé et j'ai été bien content. J'ai pris le Bloody Bovary. Donc, le Bloody Bovary qui est fait avec de la Kettle One au citron, un mix de Dijon et César, Clamato, de l'Estragon et du Cerfeuil. Un très beau mélange. Pas trop d'ingrédients. Un beau piquant là, qui vient du Dijon. Le côté aromatique feuillu là, qui venait là, avec le Cerfeuil et l'Estragon, qui est une saveur que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve ça très intéressant. Une très belle exécution, faite de façon très intelligente. Et ils l'ont pas overdo it. Là. Ils n'en ont pas fait trop. C'est ce qui m'avait repoussé là, des Bloody Mary, Bloody Caesar dans les restaurants. Là. Depuis un certain nombre d'années, là, c'est comme il n'y avait plus de maudite limite. Tu commandais un Bloody Mary, puis il fallait que tu commandes 48 heures d'avance parce qu'il y avait un éléphant farci à girafe avec une roue de bicycle dedans. Là. Ça n'avait plus de maudite de bon sens. Le drink arrivait quasiment dans une brouette tellement qu'il y avait du stock. Donc, ils sont revenus à l'essentiel. On en fait quelque chose de très simple. On en a mis un petit peu plus pour aller chercher d'autres saveurs, mais c'était vraiment très intéressant. On était loin des places qui, je vous dis, qui en font vraiment trop. Donc, je suis content d'avoir essayé parce que c'est le genre de drink, comme je vous dis, que j'ai arrêté de prendre depuis des années dans un restaurant. C'était toujours trop. Là. Il y a, comme je vous dis, là, je trouvais ça le fun quand ça a commencé à être fait, là, d'incorporer quelques ingrédients différents là, dans un Bloody Caesar. Mais là, c'était rendu vraiment trop là, à certaines places. Donc, une très belle découverte. Je suis content d'avoir essayé. Comme je vous dis, ils en ont réussi à en faire un peu plus, amener un petit côté différent, de se l'approprier, mais que ça reste quand même le proche du cocktail original. Donc, le Bloody Bovary, un très beau mélange, pas trop d'ingrédients, une belle exécution, très intelligent. On y va avec un 4 sur 5. Ensuite, on a reçu nos premiers plats. Le premier plat qu'on a pris était le canard. Le canard était un magret de canard nappé de sauce sortilège accompagné d'un aligot de pommes de terre et une julienne de pommes fraîches. Un aligot de pommes de terre, là, c'est une pomme de terre purée dans laquelle on a incorporé du fromage. Donc, ça s'enlignait pour être... c'était une entrée à 21... Ben, une entrée, c'est un tapas à 21,95. Leur modèle est un pas tout à fait tapas. Là. Je vous dirais que c'est un petit peu plus gros qu'un tapas et un peu plus petit là, qu'un assiette normale. Donc, nous, on a été... Moi, j'étais même assez gourmand, puis il était tard, on avait faim, donc on a pris au total là, 6 assiettes. Là, mais ce serait pas surprenant là, que pour un couple moyen, que je dirais que c'est entre 3 et 5 assiettes. Donc, on a été là, un peu... Un peu over the top. On a goûté un peu plus, mais il y avait des trucs qu'on avait pris qui étaient plus légers. Donc, le canard, je trouvais que ça avait été extrêmement lourd. Très, surtout en plus comme première assiette, premier service. Très hearty, très copieux. C'était vraiment dans la mentalité de English roast beef and mash. Là, un rôti de bœuf avec de la grosse purée de pommes de terre. C'était trop lourd. Il n'y avait pas assez de délicatesse. Le canard était un petit peu trop cuit. La pomme de terre aligot, très bon, un petit peu trop salé. Heureusement, là, la julienne de pomme qui était servie avec venait un petit peu l'alléger et donner la délicatesse, mais c'était trop lourd. Il n'y avait pas assez de place là, à la délicatesse de la viande du canard. Honnêtement, la sauce sortilège, le sortilège qui est un alcool à l'érable, n'a pas réussi à se distinguer à travers tout ça. C'était toutes des saveurs beaucoup trop dures. Il manquait de légèreté, il manquait de... C'était trop lourd. Il n'y avait pas de cohésion. On n'allait pas chercher la délicatesse qu'on aurait pu avoir avec la saveur de viande du canard et la sauce au sortilège. Tout était là, dans le gros saveur bourru, là, comme je vous dis, là, de rôti de bœuf et patates pilées. C'était pas mauvais, c'était bon, mais c'était beaucoup trop lourd pour les ingrédients là, qu'il y avait dans cette assiette-là. Donc, pour le canard... J'y vais avec un 3,25 sur 5. Ensuite, le deuxième plat, on a pris les pétoncles. Les pétoncles qui sont en cru d'eau, nappés d'une vinaigrette au lait de coco, mangue et lime, garnis avec un gel de fraise, de la pomme grenade et du radis melon d'eau, une assiette à 16,95 $. Quelque chose de très bon, très frais, une texture bien amalgamée. Par contre, il y avait trop de saveurs dans l'assiette. On perdait la délicatesse du pétoncle. Je pense que peut-être là, la mousse au lait de coco ou le radis melon était de trop. Il y avait une saveur qui était trop et ça venait complètement, presque effacer la saveur du pétoncle. C'était bon, c'était frais. Il y avait une belle amalgame de texture avec la mousse, le pétoncle. La grenade et le radis melon. Mais il y avait une saveur là-dedans qui était trop. Il y avait des saveurs qui faisaient que on perdait le pétoncle. Donc, c'était un peu trop ou un peu trop fort. Il aurait peut-être fallu qu'il y ait une saveur qui soit un peu plus délicate, un peu plus dosée, pour donner un peu plus de place à la saveur du pétoncle. Donc, encore une fois, pas mauvais, mais l'exécution manquait... en fait, il manquait pas. Il y avait quelque chose de trop dans l'assiette, là, et ça ne laissait pas assez de place à la saveur du pétoncle, mais sinon, les saveurs marchaient, mais trop fort. Donc, quand même, là, une belle assiette, quelque chose d'intéressant pour l'assiette de pétanque qui était à 16,95. J'y vais avec un 3,5 sur 5. Ensuite, on a continué dans les cocktails. Mon amoureuse y était avec une sangria rouge. La sangria au vert, là, qui est à 11,30$. Une sangria bien exécutée, fruitée, pas trop sucrée. Belle exécution, mais peut-être faible comparée aux autres cocktails. Il y a un vieux chef là, qui disait que quand il manquait de quoi, ça manque de cric à bite. Donc, c'est un peu le feeling que j'ai eu, c'est la note que je m'étais laissée. C'était bien, mais il manquait de quoi, étant donné là, quand même les saveurs étonnantes là, de leur autre cocktail. Donc, pas que c'était mauvais, mais c'était peut-être là, trop simplement correct. Donc, il va avec un 3,5 sur 5 quand même pour la sangria rouge. Ensuite, l'autre cocktail que j'ai pris était le Rodolphe Collins. Là. Donc, un honneur là, à toutes les cocktails Collins là, qui sont très classiques, là, qui sont genre, classiquement, je pense que c'est John Collins ou Tom Collins, que c'est gin, citron, soda. Là. Donc, le Rodolphe Collins qui est avec du gin Tanqueray, de la liqueur de cassis, du citron frais, du sirop de rhubarbe et bergamote et du bitters à la rhubarbe. Un cocktail léger, fruité, il y avait des fraises dedans qui venaient bien, bien marier la saveur de la bergamote qui était très bien dosée. Un bel équilibre en légèreté. S'il y avait eu un cocktail que j'aurais bu toute la soirée là, à ce moment-là, j'aurais dit que c'était lui. C'était vraiment là, très intéressant. Une belle fraîcheur, pas trop lourd, des belles saveurs bien contrôlées. On avait vraiment là, l'essence d'un cocktail là, qui est l'équilibre entre sucré, sûr et la force de l'alcool. En anglais, on dit les 3S, sweet, strong and sour. Donc, très belle exécution, beaucoup aimé ça, léger, en légèreté, des belles saveurs, un cocktail pas particulièrement compliqué, mais bien exécuté, c'est souvent ça qui fait le succès. J'y vais avec un 4 sur 5 pour le Rodolphe Collins. Ensuite, j'y étais avec le cocktail du moment, quand j'ai demandé c'était quoi, là, parce que c'était une limonade au pamplemousse bourbon. Vraiment, là, c'était un cocktail très, très bien exécuté. On avait un super beau équilibre entre le fruit, l'amertume du pamplemousse avec le sucre du bourbon, la rondeur des fruits et agrumes. Tout ça venait se marier. C'était parfait. Encore une fois, un très bel équilibre entre le sûr, l'amer, le sucré, l'alcool. Vraiment, là, c'était un cocktail. Personnellement, évidemment, je suis un amateur de bourbon, donc ça tombait dans ma palette. J'aime pas les cocktails trop sucrés. Ça tombait dans ma palette. Donc, en général, je vous dirais que c'était un très bon cocktail. Je vous dirais, étant donné les saveurs que moi, je préfère, c'était un très, très bon cocktail. Donc, le cocktail du moment là, qui était au moment de ma visite, le Grapefruit Bourbon Lemonade, donc une limonade là, au pamplemousse au bourbon. J'y vais avec un 4,75 sur 5. Ensuite, là, mon amoureuse a pris la sangria blanche. Personnellement, j'ai trouvé un peu plate. Là, c'était très orange, plate, un peu trop simpliste. Je trouvais pas qu'il y avait d'autres saveurs. Là. Je trouvais que c'est comme vin blanc orange. J'ai pas décelé d'autres saveurs particulièrement. Un peu trop simple. Fait que je dis pas parce que c'était mauvais encore une fois, mais j'avais l'impression que les autres cocktails étaient tellement bien dosés, bien équilibrés avec des saveurs intéressantes que là, c'était là. À la limite là, du simpliste, là, c'était presque niaiseux. Donc, sangria blanche, là, sans histoire, on y va avec un 3 sur 5. Ensuite, la deuxième batch de plats qu'on a eu, on y a été avec le gnocchi. Le gnocchi qui est une assiette à 19,95. Les gnocchis maison au mascarpone et pommes de terre dans un beurre blanc citronné garni de pois verts, de noix de Grenoble et de parmesan frais. Bien exécuté. Je trouvais que c'était un plat très intelligent. Le croquant du Grenoble, la fraîcheur du citron, un beurre blanc bien dosé pour pas être trop lourd, pas être écœurant. Un gnocchi peut être un plat extrêmement lourd. Là, je trouvais là, que c'était juste assez, pas trop lourd, juste assez de légèreté pour un plat qui est quand même copieux. Ça reste du gnocchi dans un beurre blanc, mais la fraîcheur du citron, le croquant du Grenoble venaient tout aller chercher ça ensemble. C'est un des plats que j'ai trouvé qui avait là, justement le plus d'intelligence dedans. J'y vais avec un 4.25 sur 5 là, pour le gnocchi. Ensuite, l'autre plat qu'on a eu était, c'était l'aubergine. L'aubergine était un steak d'aubergine laqué au piment coréen sur une crème de tofu au miso garnie de maïs grillé, de riz soufflé et de chips de kale frits. Quand même une grosse assiette. Moi, je trouvais que c'est un très bel amalgame. Quand même piquant. Mon amoureuse qui ne mange pas piquant, elle trouvait que c'était un peu... Il y avait pas mal de zing là, dans la sauce. Sweet, le côté crémeux du tofu, le crisp du maïs. Le ballon des saveurs était bien dosé. C'était probablement la meilleure exécution de la soirée. Donc, ces deux plats-là ont vraiment été un service super intéressant. Beaucoup de saveurs. C'est des saveurs très fortes, comme on avait le piquant, on avait le salé, le sucré. Des saveurs qui étaient, comme je vous dis, là, très... très forte, mais ils ont trouvé moyen de tout faire marcher ça ensemble. Le crémeux du tofu puis de l'aubergine grillée, je veux pas qu'il y ait un côté très onctueux. C'était vraiment intéressant. Donc vraiment là, une superbe exécution pour le plat d'aubergine. On y va avec un 4.5 sur 5. Ensuite, là, les deux derniers plats qu'on a pris, on a eu là, le poulet frit. Là, donc c'était 3 ou 4 morceaux de haute cuisse désossée. Là. Qui était frit là, dans une chapelure aux épices cajun, accompagné d'une sauce buffalo et de crème sure à l'oignon. Un plat pour $17.95. Un plat quand même assez généreux, là. Ça a bien de l'allure. Un très bon crispy, une viande extrêmement tendre. Dans ma tête, je pensais là, que c'était là, mariné au buttermilk, donc au lait de babeurre. Personnellement, quand je fais du poulet frit, c'est ce que je fais. Ça donne là, une très belle tendreté à la viande. Une sauce d'accompagnement tout à fait parfaite. Quelque chose de sucré, de piquant. Super intéressant. Par contre, après avoir jasé là, avec notre serveur, là, qui était en fait là, le barman, on était assis au bar. Je lui ai dit là, qu'on a eu un problème avec l'assiette. C'était extrêmement salé. Ce que mon serveur m'a dit, c'est que le poulet devait être... il est en fait in a brine. Donc, saumuré. Il est saumuré, donc ça, mais je dis pas. Le problème n'était pas le poulet parce que j'ai vraiment séparé le poulet de la chapelure pour voir où est-ce qu'il était le problème parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup trop salé. Et le poulet n'était pas trop salé, c'était vraiment la chapelure. Donc j'ai l'impression que le poulet était peut-être encore dans la saumure au moment du service. Et qu'ils ont fait. Ils l'ont pané trop rapidement. Donc la chapelure a absorbé beaucoup de la saumure, donc c'est extrêmement salé. Donc, le poulet, lui, a juste absorbé le sel qu'il avait absorbé. Et là, la chapelure a peut-être absorbé tout le jus de la saumure. Et là, ils ont fait frire ça. Et c'est là qu'en croquant dans l'assiette de... Pas dans l'assiette en tant que telle. Mais dans le poulet, là, quand je croquais dans la chapelure, c'était salé. Une affaire qui n'avait aucun bon sens. Là. J'avais beau le tremper dans la sauce crémeuse, là, mais c'était beaucoup, beaucoup trop salé. C'est dommage parce que pour le reste, la tendreté, les saveurs, c'était là. Mais il y avait beaucoup trop de sel. Dans ma bouchée, ça n'avait aucun bon sens. Donc, ça a somme toute gâché le plat. Sinon, je peux admettre la tendreté, comme je vous dis, l'exécution, la chapelure, très beau, très crispy, les sauces délicieuses, la tendreté du poulet, mais c'est le sel, c'est le sel, c'est le sel. Donc, j'ai pris en considération que si ça n'aurait pas été du sel, ça aurait peut-être été une assiette parfaite parce que là, le contrôle des saveurs et des textures était parfait. Je vais être généreux, j'y vais avec un 3.5 sur 5, malgré le fait que c'était beaucoup trop salé. Si je goûtais juste le poulet à part de la chapelure, c'était pas partout dans la chapelure, mais il y avait en général trop de sel. Donc, d'après moi, c'est mon guess. Là. Le poulet était encore dans la saumure. Ils l'ont mis trop vite dans la panure. Il y avait trop d'eau encore après le poulet. Donc, de la saumure. Puis ça l'a tout oversalé. C'est dommage parce que ça aurait été un super plat. Donc, je pense que, comme je vous dis, je suis généreux. 3.5 sur 5, là, malgré le plat extrêmement salé. Le dernier plat qu'on a pris était le carpaccio. Le carpaccio est un carpaccio de cerf garni de brocoli en pickle, d'oignons perlés, de chips de pommes de terre rate, nappé avec une sauce aux noix de pin, un plat à $21.95. Un beau plat, encore une fois, légèrement salé. Je sais pas ce qu'il y avait avec le sel ce soir-là, là, ça a été... Ça a été un cas qui revenait un peu souvent. Pas vraiment trop salé, mais il était petit point plus salé que ce que j'aurais aimé peut-être. Un bel amalgame, le champignon, la noix de pin. On respecte le côté boisé là, de la viande de serre avec le champignon, le pickle de brocoli. Venait ajouter juste un petit peu d'acidité puis de végétal qu'on avait besoin. Comme je vous dis, on respectait énormément la saveur délicate là, de la viande sauvage là, avec la serre, ce qui n'avait justement pas été le cas avec le canard là, au premier plat où là, toute la délicatesse de cette viande-là était partie. Là, ça avait été respecté, ça avait été même mis en valeur. Donc, au niveau de l'exécution, c'était superbe. Des très belles saveurs, beaucoup aimées. Pour le carpaccio, là, j'y vais avec un 4 sur 5. Ensuite, on a eu les desserts. Alors, on a pris tout d'abord un brownie, un superbe brownie chocolaté. Chocolat moelleux, il y avait une espèce de crème de guimauve à la banane, un caramel léger, un amalgame qui marchait tout à fait. Ça faisait une espèce de côté s'mores, banane, quelque chose de très, très, très intelligent. Toutes les saveurs marchaient, les textures marchaient, la température, tout était super bien fait. Là, c'était vraiment d'une très grande intelligence. Vous savez, je ne suis pas dessert, je suis encore moins chocolat. Là, j'ai été obligé de m'avouer vaincu. Là. Ça avait été fait là, avec une très grande exécution, une très grande intelligence. Tout marchait, le crémeux sucré de la banane, le caramel léger qui venait ramasser tout ça avec un beau brownie bien moelleux. Parfait, intelligent, superbe exécution. Le brownie, on y va avec un 5 sur 5. Oui, pour un dessert, oui. C'était vraiment là, de très grande qualité. L'autre qu'on avait, là, c'était une petite tartelette au sucre maison servie avec une boule de crème glacée. Et là, malheureusement, là, on n'était pas beaucoup dans la même game. C'était manqué, c'était complètement manqué. La ganache était trop liée, donc il n'y avait pas assez le côté crémeux de sucre qu'on va avoir dans une tarte au sucre. Une pâte qui était molle, qui était caoutchouteuse, j'arrivais pas à la couper à la cuillère. C'était chewy, c'était caoutchouteux. La meilleure partie de ce dessert-là était la boule de crème glacée, ce qui honnêtement, faut se dire, est ridicule. Donc, pas capoté vraiment. Très simple, je veux dire, c'était under par. Comme je vous dis, la seule bonne chose de ce dessert-là était la crème glacée, que je me doute qu'elle était probablement pas faite maison, ce qui est très normal. Là. Donc, malheureusement, là, j'y vais avec un 2,75 sur 5, pas la note de passage. Il n'y avait rien qui marchait dans cette assiette-là, malheureusement. S'il y aurait eu quelque chose, puis qu'il y aurait eu juste une faiblesse, je comprends, mais la ganache marchait pas, la pâte marchait pas. Fait que, malheureusement, on y va en dessous de la note de passage pour la tarte au sucre, 2,75 sur 5. J'ai pris un dernier cocktail là, qui était là, le Old Fashioned Bovary. Là, ça m'a servi un peu là, de digestif. Le Old Fashioned Bovary, je trouvais que c'était quelque chose de très intéressant. C'était fait avec du Glenmorangie X, du Calvados Boulard, un zeste d'orange de la mer, donc du bitter au chocolat et un sirop simple. Old Fashioned est peut-être un de mes cocktails favoris. Absolument, c'est du bourbon, de l'orange, un petit peu de sucre et du bitter. Là, je trouvais ça très spécial, là, la touche chocolatée là, qui vient marier la pomme du Calvados. On a un peu le côté scotch, la belle finale orangée là, due aux zestes d'orange. Un cocktail simple, pas trop fort en saveur, mais toutes des belles petites notes de délicatesse. Donc, un côté un peu scotch, là, qu'on allait chercher un petit peu ce côté boisé de pomme-là. La petite orange qui arrivait, le bitter au chocolat qui amenait juste une petite saveur de cacao léger, pas trop fort, qui venait un peu se marier dans tout ça. Donc, un cocktail qui est majoritairement en alcool avec quelques aromates. Donc, il fallait que ce soit très bien fait. Très belle exécution, belle intelligence. Beaucoup aimé ça encore là. C'était évidemment là, quelque chose qui était dans mes cordes. C'est un de mes cocktails, sinon peut-être mon cocktail favori à la base. Donc, je trouvais que c'était une belle version là, qui finissait très bien un repas. Très simple. Donc, on y va avec un 3,75 sur 5. Super beau cocktail. Rappelez-vous, au début, là, je vous avais dit là, que si on aurait mangé au Saint-Hubert, on aurait eu une facture de 209$ plus pour boire. Là, ils ne nous ont pas servi, ils nous ont pas chargé les desserts. Donc, ajoutez peut-être là, un 10 à 20$ de plus que ce que je vais vous dire. Parce que vu qu'il y avait un des services où on a beaucoup attendu, on a commandé en même temps que des groupes, donc on a attendu très longtemps pour nos assiettes. Pour se faire pardonner, là, ils nous ont pas chargé les desserts, mais ils nous ont remis une facture de 269$. Donc, comme je vous dis, au pire, si vous voulez calculer, rajouter les desserts qui nous ont pas été chargés. Mon amoureuse aussi a pris un cocktail dont je vous ai pas parlé, là, qui était comme un équivalent là, de saveur de café alcoolisé. Donc, ils ont fait un truc avec café, cognac et liqueur d'orange. Bon, j'ai pas trop goûté, Mais j'en ai pas parlé, mais on avait quand même un cocktail supplémentaire. Ce qui fait que pour 6 plats et 8 cocktails, on a eu une facture de 269$. Donc, entre un repas au Saint-Hubert et un total de 3 consommations, ou un repas chez Madame Bovary, et mettons qu'on compte pas les desserts, pour 6 plats et 8 consommations, il y a une différence à peu près de 60$ et vous rajoutez le pourboire. Il y a une très, très, très grosse différence au niveau de la qualité de la nourriture et une pas si grosse différence-là au niveau du prix. Oui, 60$, ça reste de l'argent, mais si vous sortez en amoureux et que vous voulez vraiment vous payer à traite, pour une différence d'une soixantaine de dollars, là, je pense qu'il y a une très grosse différence. Donc, choisissez ces petits restaurants-là indépendants qui font des très belles choses. Au lieu d'y aller peut-être 4 fois dans le mois, allez-y 3 fois dans le mois. Mais choisissez ces restaurateurs-là qui font des choses exceptionnelles, qui font des belles choses, qui s'assurent que vous ayez une belle expérience. Comme je vous dis, là, si on aurait voulu faire le party toute la nuit à partir du moment qu'on a fini de souper, c'était une super belle ambiance, c'était dansant, c'était parfait. Mon amoureuse a pris des informations même là, pour faire son staff party job là-bas. Donc, c'est une très belle ambiance. On mange très bien, on boit très bien. L'ambiance est belle. On a un personnel super attentionné. J'ai beaucoup aimé le service du jeune homme là, qui nous a servi. Donc, une très belle expérience pour Madame Bovary à Boucherville pour un prix qui est très raisonnable comparativement à ce que, oui, ça coûte cher à sortir au restaurant. Mais je pense que ça coûte plus cher quand on n'apprécie pas tant que ça notre soirée. Donc, je pense que ça vaut la peine là, de dépenser un petit peu plus, peut-être y aller une fois de moins en général, et de profiter d'un établissement comme le Madame Bovary. Et c'est ce qui met fin au deuxième long, mais qui valait très la peine, je crois, bloc numéro 2 pour aujourd'hui. Pour le troisième bloc, encore un restaurant sur la rive sud de Montréal, c'est l'Étoile du Match à Varennes. J'avais gagné un concours là, à la radio du BPM Sport et j'ai été invité là, par les animateurs là, Gilbert Delorme et Benoît Roger. Donc, j'ai pas payé la facture, donc je vais me fier au prix là, qui est marqué sur le menu. J'ai bu quelques bières là-bas, mais c'était des bières que j'avais déjà bu, certaines que je vous ai déjà parlé. Donc, je vais vraiment me concentrer là, seulement sur la nourriture pour l'Étoile du Match à Varennes. Donc, la première chose qu'on a mangé, ben, quand on est arrivé, on a pris une bière, on jasait, puis ils ont comme commandé un peu là, de finger food là, pour en attendant là, pendant qu'on jasait. Donc, la première chose qu'on a eue, c'est le nachos du match. Le nachos du match, c'est un assiette de nachos avec bœuf haché, jalapeno, olive noire, tomate, oignon, fromage et coulis de cheddar. Une assiette là, à $24.50. C'est servi avec de la guacamole et une crème sure aux haricots noirs. Très intéressant, des belles saveurs, quelque chose d'assez simple. On est vraiment là dans le pub sportif. Des belles saveurs quand même. Le seul point négatif, c'est que c'était si vous êtes assez vieux, je pense que vous avez connu ça, là, les gros nachos ronds là, qu'on ne voit quasiment plus. C'est les seuls nachos qu'il y avait quand j'étais jeune en campagne dans les années 80. Mais là, de voir ça dans un restaurant, je suis comme resté un peu surpris. C'est des nachos qui sont un peu épais, qui sont pas aussi croquants. Là, donc, ils sont plus épais, moins croquants. Donc, quand on les fait cuire avec des garnitures comme ça, évidemment, ils deviennent toujours un petit peu plus mous. Là, ça restait un peu collé. Donc, les saveurs étaient là, mais c'est vraiment le nacho dans le nacho qui était le point faible. Mais sinon, les saveurs étaient intéressantes. Une très belle guacamole maison. Une crème sure aux haricots noirs, je trouvais ça très intéressant. Ça faisait différent, c'est pas partout qu'ils font ça. Là. Donc, il y avait quand même du travail, là, même du côté des accompagnements. Une portion quand même assez généreuse. Là. Je vous dirais que pour une personne qui veut juste manger ça, d'après moi, il va avoir un repas qui a de l'allure. Il y a quand même de la protéine. Tu vas être bien nourri, là, sinon là, à partager là, à 4-5 facile, là, c'est pas un problème. Là. J'imagine, en écoutant une game de hockey, en prenant une bière, ça va être tout à fait parfait. Donc, une assiette à $24.50. Bien aimé ça, mais comme je vous dis, le côté faible, le nachos dans le nachos, qui est un peu décevant. Sinon, les saveurs étaient corrects. Je vais avec un 3.5 sur 5 pour le nachos du match. Ensuite, là, ils nous ont aussi servi là, des ailes de poulet. Donc, vous avez deux options. Là, soit la livre d'ailes de poulet à 1 livre pour $16 ou le 2 livres pour $30. belle aile de poulet maison, des grosses ailes de poulet. Là, c'était vrai que la grosseur était vraiment une belle grosseur. Délicieuse, juteuse, bien assaisonnée. Je pense que ce qu'ils nous ont amené, là, c'est la classique ou la barbecue. C'était pas trop piquant. Vraiment là, très intéressant. J'ai rarement vu une grosse aile de poulet comme ça. Fond probablement qu'il était frit, mais elle me donnait l'impression d'être rôti. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant, de différent, juteux. Il n'y avait pas justement ce côté pané, frit, sec-là. Là, c'était vraiment une très belle aile de poulet juteuse, beaucoup appréciée. Malheureusement, le point faible, la petite sauce d'accompagnement qui servait avec ça, était sucrée qu'elle yaube. Je ne comprenais pas du tout qu'est-ce que ça venait faire avec une si belle saveur d'aile de poulet. J'ai vraiment pas compris. Au début, je me suis dit, c'est moi qui ai mal goûté. Blablabla, j'ose avec les gens, je reprends une aile de poulet, je la trempe dans la sauce. Calvince, la sauce était vraiment trop sucrée pour ce que ça devait être. Je trouvais ça malheureux parce que ça venait complètement fucker à patente. Les ailes de poulet étaient très bien faites. C'était une des belles ailes de poulet que j'avais vues vraiment. Là, ça se démarquait complètement. La sauce faisait complètement défaut. Donc, j'étais comme, je peux pas croire que ça n'a pas été mieux pensé. Y a-t-il quelqu'un qui a fait la sauce qui était mal calibrée? Je sais pas si c'est vraiment ça qu'ils voulaient. Je comprends pas le pairing qu'ils voulaient faire là, avec leur super belles ailes de poulet juteuses et bien assaisonnées puis cette sauce sucrée-là. Donc, malheureusement, la sauce a fait descendre la cote parce que c'était peut-être un plat qui aurait été un très gros hit. Là. Donc, comme je vous l'ai dit, les ailes de poulet là, à l'étoile du match de Varennes, très intéressante. Malheureusement, la sauce a un peu gâché mon appréciation. J'y vais quand même avec un 3,75 sur 5 avec une petite sauce qui aurait été d'accompagnement. Là, ça aurait été un gros home run. Là. Peut-être les meilleures ailes de poulet que j'aurais mangées. Si on parle seulement de l'aile de poulet en tant que telle, c'est ce que ça l'aurait été. Donc, ensuite, j'y étais là. Pour le repas, j'ai payé des cornichons frits. C'est très intéressant, c'est fait maison. Quand même une portion assez généreuse. Là, pour 8$, je devais avoir l'équivalent de 2 ou 3 pickles coupés en 4. Là, je devais avoir un 8 à 12 morceaux, là, d'après moi. Une très belle sauce, une très belle panure, des beaux morceaux de pickles. Comme je vous dis, vraiment, au niveau de la générosité de la portion, c'était là. Malheureusement, le pickle a peut-être coupé trop gros. Quand je croquais dedans, des fois, ça fait ça, des fois, mettons, avec un onion ring qui est coupé un peu trop épais, là. On prend une première bouchée, on tire, l'oignon vient complet, on reste avec un ring de pâte qui finit par s'effriter dans les mains, là. J'ai joué un peu ça, là, avec le cornichon frit. Je prenais une croquée, le pickle venait au complet, puis je restais avec un tuyau de pâte dans les mains. C'est malheureux parce que ça l'a un peu tout défait, donc peut-être que le cornichon n'était pas assez asséché. Il manquait peut-être, là, je sais pas où, le pickle n'était pas assez asséché ou il était coupé trop gros. Sinon, la chapelure était super bonne, un beau panko, un gros morceau bien croquant. Donc, l'amalgame était parfait. Il y avait un croquant à l'intérieur. Le pickle n'était pas trop mou, c'était un pickle de belle qualité. Un croquant à l'intérieur aussi, la petite sauce qu'il y avait pour accompagner ça. Superbe, mais seul défaut, c'est comme je vous dis, presque à chaque nouveau morceau que je prenais, à première bouchée, le pickle sortait. Il fallait vraiment que je prenne vraiment mon temps de le couper à l'intérieur avant. C'est le seul défaut parce que sinon, texture, tout était là, saveur, tout était là. Une très belle entrée, très simple pour une entrée à 8$. C'est pas partout qu'ils font ça, puis je trouvais que c'était bien, donc peut-être juste le régler, le petit problème là, de, comme je vous dis, soit qu'il est coupé trop, gros, soit qu'il faudrait qu'il soit là, asséché un peu là, avant d'être pané. Mais sinon, en général, bonne portion, bon prix, belle exécution. 4 sur 5 pour le cornichon frit. Ensuite, comme repas principal, j'avais beaucoup de choix, comme je vous dis, étant donné que j'étais là, invité, donc mon repas était sur le bras. Et j'y étais avec un fish and chip à la bière, servi là, avec une salade de choux et sauce tartare. Une très belle portion généreuse pour une assiette à 20$. Une super belle assiette, là, ça, c'est vraiment ce qui me tentait le plus, puis j'étais vraiment content. Tout est fait maison, je m'étais formé là, à notre très gentille serveuse, là, Laurence, qui a fait un service de maître pour s'occuper de nous pendant la soirée. On était vraiment nombreux et elle a vraiment été plus que up to par. Là. Elle a été sensationnelle. Je m'ai demandé, est-ce que c'était un produit surgelé ou c'était fait maison? Elle m'a dit non, vraiment, tout est tout fait, 100% maison. C'était pas du tout un mensonge. Là. Je m'en suis tout de suite rendu compte quand l'assiette est arrivée. Deux très beaux morceaux là, de fish and chip. Un très beau poisson, fort probablement de la morue. Là. Une belle épaisseur, bien floconneux, très frais. Ça aussi, ça fait une différence. Une belle chapelure à la bière, pas trop épaisse. Un très beau crispy dedans. une portion de frites assez généreuse, mais sacrifice, les frites maison étaient particulièrement délicieuses. Je suis pas le plus gros fan de patates frites, et là, je me suis laissé emporter au jeu. J'avais plus faim après avoir tout mangé ça, puis j'ai fini mon assiette et j'ai tout mangé, les patates frites. Ils nous ont servi d'ailleurs à tous les gens là, qui avaient des frites dans leur assiette. Ils passaient avec pour savoir si on voulait une mayonnaise régulière ou une mayonnaise maison épicée. J'aime bien le piquant, donc j'ai été avec la mayonnaise maison épicée. Et c'est peut-être la plus épicée des mayos épicés que j'ai vu. Moi, ça ne me dérange pas, je mange particulièrement piquant, c'est pas un problème. Mais ça m'a surpris de savoir à quel point là, que c'était spicy et bien piquant. C'était tout à fait délicieux, mais j'ai été surpris de la force de la mayonnaise. Mais ça l'a rendu là, tout ça complètement délicieux. La salade de choux, le petit ramequin très bien dosé, une belle coupe, pas trop sucré, pas trop crémeux. Moi, salade de choux, je suis plus traditionnel, donc salade de choux crémeux, ça n'aura pas été c'est pas mon bag. C'était donc une petite traditionnelle, bien dosée, un beau frais, un beau crisp. Ça venait casser un peu là, le gras du fish and chip et des frites. C'était parfait. Quelques morceaux de citron là, pour arroser tout ça, c'était parfait aussi. J'ai mangé tout le plateau de patates frites avec ma petite mayo épicée et je l'ai regretté. C'était bon à ce point-là. Quand on s'en revient à la maison et qu'on se chante tout seul, là, j'ai mangé trop de patates frites. C'est bon signe que les frites étaient délicieuses et que tu as ambitionné. C'était tout à fait mon cas, mais vraiment, là, une superbe assiette. Là. Un fish and chip, c'est bon quand c'est bon, mais c'est décevant quand c'est mal fait. Là, tout était A1, comme je vous dis. Une super belle assiette. J'ai vraiment rien à dire. Je pense que c'est peut-être un des très bons fish and chips que j'ai mangé dans ma vie. Tout dans l'assiette était fait. La portion était généreuse. C'était bon. C'était fait avec des ingrédients frais. Tout était fait minute. Des frites avec un beau crispy. Une belle patate là, maison. Vraiment, là, A1 sur toute la ligne. Pas grand-chose à dire. Là. C'est juste pour dire que c'est une petite coche en bas de la perfection. Beaucoup aimé cette assiette-là. Pour le fish and chip à la bière de l'étoile du match de Varennes, l'assiette à seulement 20$. J'y vais là, avec un 4,75 sur 5. Très belle assiette. Beaucoup, beaucoup aimé. Là. Comme je vous dis, là, je me suis laissé emporter au jeu de la gourmandise. Oui, je sais que ça m'arrive souvent, mais là, comme je vous dis, la patate frite, c'est quelque chose que je fais pas de problème à laisser dans mon assiette d'habitude. Là, ça y a été au toast, là, je leur ai sacré une volée. Et j'ai mal fini rendu à la maison parce que j'en avais trop mangé. J'étais déjà bien plein, c'est sûr qu'on avait pris quelques bières et qu'on avait mangé toute la soirée. Donc, une super belle soirée, là. Je connaissais pas du tout cette place-là. Une belle ambiance, donc un petit resto-bar sportif indépendant avec un très beau menu, des prix très raisonnables, beaucoup de choses différentes, donc ça vaut vraiment la peine. Une très belle soirée, merci beaucoup au BPM Sport, Gilbert Delorme et Benoît Roger pour la soirée, ça a été magnifique, j'ai beaucoup aimé ma soirée et c'est clair que je vais leur ramener la famille à l'étoile du match, c'est pas si loin que ça de la maison et on a un excellent rapport qualité-prix, donc c'est ce qui complète le troisième bloc et l'épisode pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast Aliment Passion. Je suis très content d'être de retour, ça m'a fait du bien, c'est quelque chose que j'adore faire. J'ai beaucoup de choses à vous raconter, là. J'ai plein de choses que j'ai accumulées là, depuis un certain temps. Donc, ça va être un long épisode pour le retour, mais bon, je vous ai gâté, vous méritiez bien ça, après avoir entendu après toutes ces semaines. Merci d'être à l'écoute. Là, ce que je vais faire, les médias sociaux, je suis en retard depuis un certain temps, puis là, ça s'accumule. Ce que je vais faire, je vais mettre les épisodes quand je les sors avec toutes les photos récentes, et à un moment donné, là, je ferai des batchs de rattrapage où je mettrai quelques épisodes passés que je n'ai pas encore sortis, là, les photos sur les médias sociaux. Donc, au moins, là, le retard ne s'accumulera pas et il va finir là, par se rétrécir là, avec des petites batchs de rattrapage. Vous pouvez écouter Aliment Passion partout. On est sur toutes les plateformes les plus populaires. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Mais même si vous écoutez vos podcasts ailleurs, peu importe, on est là. Podchaser, Podcaster, iHeartRadio, Balado Québec, on est partout. Si Aliment Passion n'est pas sur le Podchaser que tu aimes utiliser, tu m'envoies un message, je t'arrange ça, ça va être réglé, tu vas avoir ton podcast favori sur ta plateforme favorite. Merci vraiment à tout le monde. Ici Roger, ton Crazy Chef, qui te rappelle, ça change pas. Arrête de faire des recettes, il faut cuisiner. Bye bye.